Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halud Mouli.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Bienvenue dans ce forum de la presse. Il sera question du rapport trimestriel du secrétaire général de l'ONU sur le Mali. On parlera de la rentrée scolaire qui a lieu cette semaine et enfin de la décision de la milice d'Anna Amasagou de déposer les armes au centre du pays. Nos confrères qui vont discuter de ces sujets avec nous sont Mahaman Cissé, il est journaliste à l'Indicateur du Renouveau. Bonsoir. Yoroso est journaliste à l'Inter de Bamako. Bonsoir. Monsieur Paul Nguessan est journaliste au journal Mali Horizon. Bonsoir. Et notre confrère Moustapha Maïga, coordinateur du groupe de presse Le Ségovien et de la radio Sikoro, sera au téléphone avec nous pour jeter un regard régional sur l'actualité de la semaine. Je suis Aliou Sidibé à la présentation, assisté de Adam Koulibaly. Bienvenue à tous dans ce forum.
Le Grand Dialogue.
C'est parti pour la rentrée scolaire 2018-2019 depuis lundi dernier. Cette reprise des cours intervient au moment où plus de 2 millions d'enfants sont privés d'éducation. Le gouvernement annonce que 250 écoles fermées rouvrent cette année sur 800 au total. Alors, Mahaman, quel est votre avis sur l'effectivité de cette rentrée scolaire?
Alors d'abord, je trouve que c'est quelque chose qui aurait dû se faire depuis quelques années, mais on a constaté que derrière cette réouverture annoncée, puisque je préfère dire ainsi, alors le gouvernement a manqué d'organisation. Par exemple, aujourd'hui, le Premier ministre il va dans les centres des pays, il annonce en dehors de l'ouverture, à la réouverture des écoles, il annonce l'ouverture des cantines scolaires qui auraient quand même dû être là depuis le début de la crise. Alors, c'est aussi un espoir, si c'est vrai que les promesses annoncées par le Premier ministre se matérialisent sur le terrain. Reste aussi à savoir si les groupes terroristes qui opèrent dans la zone accepteront que ces écoles réouvrent, parce que c'est pas les enseignants qui ont refusé d'aller à l'école, c'est pas les enfants qui ont refusé, mais il y a une situation de crise qui était là, qui a fait que les écoles ont été fermées.
Très bien. Alors, Yoroso, votre avis?
Merci, Monsieur Sidibé. Avant de commencer, permettez-moi de rendre un vibrant hommage aux enseignants. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'enseignant, célébrée partout dans le monde. Et aux enseignants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour la formation des cadres de ces pays. Et j'encourage aussi ceux qui tiennent le flambeau aujourd'hui. Et par la même occasion, j'invite le gouvernement à se ressaisir pour donner un caractère solennel à cette fête des enseignants. Elle est célébrée dans l'anonymat total. C'est depuis un certain temps, c'est les syndicats qui s'organisent pour célébrer cette fête. Alors que toutes les autres fêtes et journées internationales sont célébrées avec face ici. Au moins qu'on reconnaisse le mérite des enseignants à travers les 5 octobre. Voilà. Donc par rapport à la rentrée, voilà, donc elle a été effective lundi dernier. Malheureusement, en dents de scie, où une bonne partie du pays où il n'y a pas d'école, vous l'avez déjà annoncé, certaines écoles sont occupées par des familles qui ont été victimes de l'inondation. Et je pense que cette rentrée devrait être mieux préparée que ce que nous avons vu. Le Premier ministre a été dans la région de Mopti pour lancer la rentrée scolaire 2018-2019. Et pour moi, le choix de Bayangara n'est pas tellement un bon choix, dans la mesure où l'insécurité sévit plus sur la rive gauche de Mopti, c'est-à-dire dans le cercle de Yuwaru et de
Tenenku. C'est là-bas où pratiquement toutes les écoles sont fermées. Si le Premier ministre s'était rendu dans un de ces cercles...
On va en revenir.
Voilà, donc on allait quand même dire que vraiment, sa présence allait mettre la population en confiance et aussi donner beaucoup de courage aux enseignants, voilà, d'aller à l'école. Malheureusement, Banyangara, quand même, c'est plus sécurisé que Yuwaru et Tenenku.
Okay. Paul Nguessa. Voilà.
D'accord, merci bien. Moi, je ne serai pas aussi optimiste que mes confrères. Je pense qu'il faut d'abord chapeau d'abord au gouvernement, parce que le fait de symboliquement d'aller lancer la rentrée dans des zones dites zones rouges et qu'on sent une certaine effectivité de la rentrée, c'est vrai que tout n'est pas rose. Mais je pense que derrière le fait de s'y rendre, de donner le cours, de rassurer, comme l'a dit maman, le fait de dire qu'on va mettre des cantines en place, c'est vrai, on aurait dû le faire, mais le fait même derrière de rassurer la population, j'ose croire que ce n'est pas des effets d'annonce, le fait de cela. Pour moi, ça dira bien qu'un premier ministre se déplace dans une zone dite une zone rouge, qu'il annonce vraiment des mesures fortes pour encourager ou bien pour rassurer les enseignants, rassurer la population, rassurer les apprenants, est une bonne chose. Mais nous osons bien croire que ça ne sera pas un effet de paille comme on a toujours annoncé. Sinon, chapeau aux autorités, même à Kidal, où j'ai des amis qui m'ont fait savoir que la rentrée est bel et bien effective à Kidal, ce qui vraiment pour moi dénote une confiance qui renaît entre la zone dite zone rouge, qui est des zones de conflit avec les djihadistes et les terroristes, et l'État central à Bamako. Mais nous souhaiterons vraiment qu'on puisse vraiment mettre les moyens qu'il faut pour vraiment sécuriser ces zones-là et mettre les populations en confiance pour que l'administration y retourne et pour que vraiment cette rentrée-là soit une rentrée qui va permettre à ces enfants qui ont fait plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans sans aller à l'école de gagner aussi le goût de l'espoir comme on a aussi à Bamako ici. C'est vrai que tout à l'heure, le confrère parlait des zones, des écoles inondées. Il faudra que le gouvernement puisse songer à tout cela. C'est vrai que c'est des catastrophes naturelles, mais on peut prévenir tout cela pour que vraiment la rentrée soit une entrée festive et non une entrée un peu biaisé.
Ok. Alors, Moustapha, vous n'êtes peut-être pas à Mopti, mais Ségou aussi, c'est le centre du pays. Quel est votre avis par rapport à cette rentrée scolaire?
Merci bien. Et comme mes prédécesseurs l'ont dit, je dois d'abord féliciter le ministère de l'Éducation nationale. Les gens oublient ça un peu. Féliciter le ministère de l'Éducation nationale, en même temps le gouvernement, parce que depuis 2 ans quand même, on a constaté le respect des échéances, des évaluations et autres examens. Ce n'était pas le cas les autres années. Cette année aussi, on a remarqué qu'un planning a été élaboré pour la rentrée académique 2018-2019, et surtout la rentrée a été effective le 1er octobre, même si ce n'est pas à 100%. C'est des situations qu'on ne connaissait pas il y a 3, 4 ou 10 ans. C'était des rentrées scolaires, n'est-ce pas, très très saccadées. Donc il faut quand même remercier le département de l'éducation nationale, en même temps donc le gouvernement, pour ces plannings qui permettent à l'administration scolaire, aux parents d'élèves, aux élèves en tous les cas, de se situer, de se faire une bonne idée de la rentrée de l'année académique en cours. Autre félicitation, avant de donner un avis contraire, il faut aussi apprécier la démarche pédagogique du Premier ministre Soumaïlou Boubé Meïga. Les autorités, il l'a toujours dit, il faut qu'elles soient en contact permanent avec les populations. Un Premier ministre qui est allé au centre, en tous les cas, en moins d'un an, 2-3 fois, je crois que ce sont des situations qu'il faut apprécier, même si, de mon point de vue, j'aurais voulu que le président de la République lui-même s'engage à être plus en contact avec les populations locales qui l'ont élu que d'être un peu hors du pays. Mais cela, n'est-ce pas, ne dédouane pas les autorités pour cette rentrée scolaire parce qu'il y a quand même des problèmes. L'école connaît beaucoup de problèmes parce que aujourd'hui, si on parle de l'école, il faut parler des acteurs eux-mêmes. Et ces acteurs, ce sont les enseignants, Yorosso l'a dit, c'est l'administration scolaire elle aussi. Les enseignants, ils ont énormément de problèmes. Le statut, il court derrière un statut particulier avec notamment des grèves. Je prends le cas de la région de Ségou où dans le cercle de Bla, la rentrée scolaire n'a pas été effective parce que les enseignants sont en grève et imaginez pour des problèmes de retard, de paiement, de salaire. Et en parlant d'insécurité aussi dans le centre comme dans une partie de la région de Ségou, c'est quand même plus de 750 écoles qui sont aujourd'hui fermées à cause de l'insécurité. Donc tout ça, ce sont des problèmes et il revient à l'autorité, au gouvernement de Paris, de pallier à ça.
Okay. Mais Moustapha, immédiatement après le passage du Premier ministre, des écoles réouvertes ont été refermées par des djihadistes. Alors, pensez-vous que cette rentrée a été sérieusement préparée?
Bon, je ne peux pas le dire de façon fortuite qu'elle n'a pas été préparée, mais on a l'impression en tous les cas que chaque année, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent. Chaque année, on attend peut-être à la dernière minute pour parer, n'est-ce pas, à tous ces problèmes récurrents. Mais au-delà même, au-delà de l'école, c'est le problème d'insécurité qui est là dans ce pays. Le Premier ministre a beau rassurer les enseignants, l'administration scolaire d'être dans les écoles, si les populations elles-mêmes ne sont pas sécurisées, donc le problème demeure. Donc, c'est le problème reste entier tant que l'insécurité, de façon globale, demeure dans le pays.
Ok. Alors, Mahaman, on a constaté que le Premier ministre, il est passé vers 9h pour rouvrir des écoles fermées. Et à 10h, il y a des djihadistes, entre guillemets, qui sont repassés pour demander de fermer. Alors, qu'en pensez-vous?
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, l'enjeu, ce n'est pas seulement d'organiser une cérémonie officielle qui consacre la réouverture des écoles. Non, l'enjeu, c'est aujourd'hui, c'est de sécuriser les écoles. Par exemple, vous avez un fait en horaire qui s'est passé à Koro. À côté d'une école, dans un village, vous voyez une grenade qui apparaît. Vous voyez ce que ça fait. À mon humble avis, les autorités doivent commencer d'abord à s'intéresser à la question de la sécurisation, faire en sorte que les territoires soient sécurisés, les écoles et les populations. Alors si on n'a pas ça, moi je pense que tout ce qu'on est en train de dire, qu'il y a telle ou telle école qui ont déjà repris, moi je pense que demain, après-demain, d'autres écoles vont fermer. Comme c'est aussi le cas actuellement dans la région de Tombouctou. Moi, je connais des endroits où il y a depuis 4 ans, il n'y a pas d'école. Parce que d'abord, les enfants sont dans les camps des réfugiés, ça c'est un. De deux, les enfants qui sont au village ne peuvent pas aller à l'école parce que tout simplement, il y a des groupes terroristes qui les menacent. Voilà. Donc, à mon humble avis, l'enjeu, ce n'est pas ouvrir les écoles, mais l'enjeu, c'est la sécurité.
Ok. Alors, pour le Premier ministre affirme, que l'école est une préoccupation au centre. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de problème au sud ou vers l'ouest du Mali?
Justement, merci pour cette question. J'ai l'impression que les autorités veulent nous faire croire que le problème du Mali, ce n'est plus Kidal, c'est le centre. Alors qu'aujourd'hui, il y a un problème sur le plan national. Parce qu'on parle du centre, on parle du nord, mais je connais des zones du sud où la rentrée n'est même pas effective parce que les écoles qui sont en banco sont écroulées. Je prends le cas de Kaï, où récemment j'y étais, j'ai vu des écoles qui sont carrément effondrées à cause de la pluie parce que les maisons de l'école est en banco. Et comme l'a dit maman, je pense qu'il faudra qu'à un moment donné, on quitte dans l'expectatisme, on soit réaliste, on soit objectif. Aujourd'hui, nous savons que depuis 2012, nous sommes confrontés à cette barbarie de djihadistes, de terroristes. Est-ce qu'il faut attendre chaque fois à la veille d'une rentrée ou bien à la veille d'un événement pour aller mobiliser la nation pour faire croire que non, on peut y faire? Non, il faudra aujourd'hui, le vrai problème du centre, du nord et de tout le Mali, Bon, pour parler plus des gens en insécurité, il faudra que l'administration retourne. Il faudra que l'armée retourne. Il faudra que les forces de défense et de sécurité soient là pour sécuriser la population. Il faut que la population se sente en sécurité. Parce que moi, en père de famille, je prends un exemple simple, père de famille, je n'ai pas de sécurité, je n'ai pas permis que mon enfant parte à l'école. De peur que le djihadiste vienne le prendre. Donc, le problème du Premier ministre, c'est vrai, il parle du centre. On ouvre l'école du centre, mais quand on ouvre à 10h qu'il faut fermer, à 9h qu'il faut ouvrir à 10h, ce n'est pas normal. Un Premier ministre, le gouvernement, les autorités doivent vraiment s'asseoir, réfléchir réellement, que faire pour que le centre, le nord du pays, se sente vraiment en sécurité pour se reconnaître dans ce giron malien qui nous tient tant à cœur. Mais non de faire des effets d'annonce et à l'instant T même, on défie. C'est comme si nos autorités... La parole de l'autorité n'est plus sacrée, alors que les autorités, quand même, on doit du respect. Donc, tout ce qu'ils doivent dire, on doit pouvoir la prendre hors et corps pour pouvoir dire, nous autorités parler, nous suivons nos autorités. Mais, dans le cas contraire, ça met que les gens sont sceptiques. Et lorsqu'il y a le scepticisme, il y a une déception. Et quand il y a une déception, la suite, on connaît.
Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio
Tamani. Retour donc sur ce plateau dans le cadre du Forum de la presse de ce vendredi 5 octobre avec nos confrères Mahamane Cissé de l'Indicateur du Renouveau, Yoroso de l'Inter de Bamako, Paul Nguessan de Mali Horizon, Moustaphe Maïga du groupe de presse Les Ségouviens et de la radio Sikoro. Alors, Yoroso, alors on a vu quand même des syndicalistes, quand même, ils ont dit ils ne veulent pas laisser quand même leurs militants aller dans les zones d'insécurité et les autorités scolaires qui leur demandent de rejoindre leur poste. Alors, est-ce qu'on va assister à un autre bras de fer en dehors, à côté de cet aspect de l'insécurité au niveau des écoles?
Non, je crois que c'est un nouveau bras de fer qui s'annonce parce que c'est sûr que les syndicats ne vont pas permettre à leurs militants vraiment d'aller dans les zones où ils ne sont pas sécurisés.
Mais est-ce qu'on peut pas faire l'économie de ça?
Non, et l'État ne doit même pas prendre ce risque d'envoyer des gens dans une zone où il n'y a aucune sécurité. Où d'ailleurs, l'école même est vue comme le Satan. Donc, en ce moment, l'enseignant devient une victime. Donc, il est temps qu'on revienne vraiment à de meilleurs sentiments par rapport à la gestion de cette affaire. Il ne faut pas qu'on force les gens.
D'accord. Alors, Moustaphe, quel est votre regard par rapport à cet aspect insécurité, syndicat et autorité scolaire?
Il ne faut pas se leurrer. Pour bien étudier, il faut quand même être en sûreté d'abord. Et dans le cas particulier du Mali aujourd'hui, dans la circonscription où on se trouve, être totalement en sécurité. Donc, ces deux paramètres n'existant pas, aujourd'hui, il est très difficile de dire à l'administration scolaire de retourner aux élèves d'aller à l'école, aux parents, quand on sait que aujourd'hui il y a des groupes de pression, des groupes terroristes qui empêchent aux gens d'étudier. Donc ça va être très difficile. Du côté des syndicats, il faut que l'État prenne ses responsabilités. On ne peut pas régler les problèmes des autres corporations et ne pas régler les problèmes des enseignants. Or, les enseignants, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent juste des conditions minimales de travail. Il y a un autre problème qu'on n'a pas soulevé depuis que le débat a commencé, c'est le problème des écoles privées. Nous avons appris que les écoles privées ont décidé de ne pas rouvrir tant que leur subvention de l'année académique dernière n'a pas été payée. Donc, le gouvernement est face à ses responsabilités. Il doit prendre les dispositions qui s'imposent, la sécurité des populations, de l'administration scolaire, des enseignants. Il doit prendre ses responsabilités vis-à-vis, ou en tout cas les engagements vis-à-vis des écoles privées et aussi des enseignants qui donnent les cours.
Ok. Alors, sans autre forme de transition, on va aborder le deuxième thème de notre forum. À Mopti, le groupe d'autodéfense Dogon Dana Amasagou accepte a accepté de déposer les armes. Alors, le chef d'état-major de la milice Dan Amasagou, Youssouf Toloba, a signé un pacte de cessez-le-feu unilatéral dans la région de Mopti. Le responsable de la milice appelle les autorités à assurer la sécurité de tous les citoyens. Yorosso, que pensez-vous de cette décision du chef d'état-major de la milice?
Si c'est pour consolider la paix, c'est une bonne initiative. Je crois que nous en avons besoin. Il faut que tous les acteurs se donnent la main aujourd'hui pour qu'on puisse aller à la paix. Mais par rapport à cette question, je suis beaucoup resté sur ma faim, d'autant plus qu'on est en train de faire une sélection communautaire dans cette zone. Voilà, les Tamashèques et les Arabes ont été regroupés. Ensuite, les Sonrai ont été regroupés. Tout le monde a créé des groupes d'autodéfense. Les Tamashèques ont pris les armes, la rébellion. Les Sonrai se sont défendus à travers des mouvements. Voilà, les Dogons ont créé une milice pour se défendre. Mais quand les Peuls ont créé des groupes d'autodéfense, on a crié au scandale pour diaboliser les Peuls en disant que cette milice est alimentée à partir de Bamako ici par des responsables, des hauts cadres Peuls tapis dans l'administration, dans l'armée. Alors que les Peuls ont créé ces mouvements pour se défendre, parce que c'est eux les plus grands perdants dans cette guerre. D'abord, ils sont assimilés à des djihadistes, des terroristes. Et quand il s'agit de se protéger, d'eux-mêmes, voilà, on a crié au scandale. Et voilà, tout le monde aujourd'hui peut se défendre, mais les Peuls, l'État même a décidé d'exposer les Peuls. Voilà, tant pis pour vous, défendez-vous parce que vous êtes des djihadistes, vous êtes des terroristes. Alors que cette milice Dogon avait été créée à un moment donné pour créer les djihadistes, uniquement les Peuls. Les affrontements qui ont eu lieu, ça a eu lieu avec qui? C'était avec les Peuls. Ici, on devrait avoir institué le feu au sens de ce mot. On devrait regrouper quand même les deux tendances et signer un accord de paix pour tout le monde. Mais je crois que ce traitement de mépris et de haine contre la communauté Peul, je crois qu'il est temps d'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que l'État a pris position pour tout le monde, sauf les Peuls. Dans cette configuration de la région du Mopti. Tout le monde. Et maintenant, on dit que ces gens-là vont intégrer l'armée. Sur quelle base? D'abord, ils ne sont pas dans le processus de paix qui a été signé. Et on vient de les intégrer dans ce processus pour dire que, voilà, ils seront intégrés dans l'armée. D'autres vont bénéficier des processus d'insertion. Et maintenant, et les Peuls, qu'est-ce qu'ils ont fait aux autres?
Alors, Mahaman, donc Yorosso m'a tantôt dévancé. Le Premier ministre qui annonce leur intégration dans le DDR, comment cela peut être possible?
Alors, vous voyez, c'est compliqué. Et je partage,
ils ne sont pas signataires de l'accord.
Ils ne sont pas signataires de l'accord, ça c'est un délit. Je partage entièrement les propos de mon grand frère Yorosso. Pour l'une des rares fois, je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se faire dans l'Europe. En fait, vous voyez un groupe d'Ana Amasagou qui sort de nulle part, qui rentre dans des villages, il tient. Un groupe qui avait des... On niait même l'existence de ce groupe. On niait même l'exemple des groupes d'autodéfense dans les milieux, dans ce milieu. On niait l'existence des chasseurs. Aujourd'hui, ce groupe sort et devient légitime jusqu'à ce qu'on signe un accord de autres. Ce groupe-ci, ce groupe représente des communautés. Pourquoi ce groupe ne s'est pas retrouvé dans le processus de paix engagé par Guinadogo et Tapital Pulau? À mon humble avis, c'est trop facile de dire qu'aujourd'hui, ils ont déposé les armes. Il faut que ceux qui sont épris de paix travaillent à ce qui s'est passé dans le centre et ceux qui ont armé ce groupe, le groupe d'Ana Amasogo et autres, et ceux qui sont derrière en sourdine, on nous dit ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été préparé? Imaginez, après la signature de l'accord, il y a des groupes d'autodéfense Peuls qui ont été créés. Mais ces groupes, on leur a dénié toute légitimité. Pourtant, c'est les mêmes. Ils travaillent. Même si ce groupe ne travaille pas pour les communautés, chacun de ce groupe dit bon, là, je travaille pour défendre ma communauté. À mon humble avis, c'est trop facile. Aujourd'hui, on réhabilite Dana Amasogo, alors que moi, je ne sais pas qu'est-ce que Dana Amasogo a fait pour défendre, je ne sais pas, l'intégrité, toi, pour défendre la République. Dana Amasogo, à un moment donné, avait même menacé les élections dans ces régions. Mais aujourd'hui, Dana Amasogo devient subitement qu'on nous dise tout en réalité.
Ok. Alors, Paul Nguessa, quel sera le sort des autres milices de la zone, notamment les Peul?
Justement, c'est un peu comique, mais ça fait mal. Et comme prédécesseur, je pense que cela démontre que l'État a failli. L'État a failli. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que dans un pays respecté et respectable, qu'on crée des groupes d'autodéfense. L'État s'assume, on déploie. Il faudra que l'État ait le courage de déployer l'administration dans toute l'étendue du territoire national. Il faudra que l'armée soit redéployée. Sinon, on n'en finira pas. Il y aura toujours des groupes d'autodéfense. Aujourd'hui, Dana Amasogo, on leur donne une légitimité qui fait mal. En ce moment, les Peuls vont se dire quoi? Ah bon, donc quelque part, nous sommes lésés. Et les Peuls, qui connaissent les Peuls? Les Peuls, ils sont à cheval dans tout presque tous les pays. Ils vont aussi se constituer des mots aussi en groupe d'autodéfense. Et ils vont venir aussi attaquer les gens, notamment. Ça devient encore une autre crise. Il faudra seulement, simplement, que l'État ait le courage de désarmer tous ces groupes-là, d'autodéfense-là, qui envoient l'administration, ils envoient l'armée, on tourne une bonne fois la page. Parce que, imaginez-vous, en 2012, les terroristes ont pris le nord, les gens du nord. Le centre, on était en paix, on a désarmé les gens. Mais comment se fait-il que, subitement, les zones de Sétentrion qui étaient la zone rouge, où tout en tout, on avait peur, on ne parle plus de cela, on ne parle que du centre. Donc, il y a un problème. Donc, c'est quoi? Est-ce les autorités qui ont failli? Est-ce les barons, les leaders de la zone du centre qui sont en train de faire ce jeu? C'est dû à quoi? Et comment imaginez-vous des Dogons, des Peuls qui ont cohabité pendant des années, ensemble, des siècles? C'est maintenant qu'on trouve que non, telle personne est djihadiste, telle personne est mon ennemi. Il faudra qu'on se ressaisisse, que l'État puisse tirer clair. Il ne faudra pas favoriser vraiment le groupe, les Dogons, pour laisser les Peuls. Car l'après, ou bien l'incident qui aura lieu après cela, je ne pense pas que l'État même pourra vraiment mettre fin à cela. Donc dès maintenant, il faudra tirer le son d'alarme pour que l'État se ressaisisse, désarme comme cela se doit, qu'on va dans le processus qu'on avance par rapport au premier groupe qui nous ont fatigués, par rapport à ce que nous vivons, et qu'on revive dans la quiétude, en tout cas, on revit tranquillement comme le Mali était. Sinon, en cautionnant Dama Sago pour leur dire on vous réintègre dans le processus DDR, je sais que les Peuls vont aussi se lever demain après demain pour dire bon, donc, on va voir. Ils vont commencer aussi, ça va devenir une autre histoire, et ça va prendre des proportions que le Mali n'a pas besoin, vu la situation que nous vivons actuellement.
Alors, Moustapha Maïga, quel peut être l'impact de ce dépôt quand même d'armes de la milice de Gon sur le retour de la paix dans la zone?
Moi, je me dis que nous tous qui parlons, l'État malien, tout le monde, tous les Maliens aspirent, n'est-ce pas, à une paix durable dans ce pays. C'est pourquoi je me dis que toute tentative d'instauration de la paix par, en tout cas, des moyens appropriés, toute tentative donc est donc la bienvenue. Mais pour le cas particulier de la milice Dogon, j'ai juste deux mots là-dessus. En appréciant et dire que pour moi, ça s'est passé, mais c'est un effet d'annonce parce que de 1960 à maintenant, on en a vu beaucoup. Nous avons été témoins, en tous les cas, de 1991 avec la rébellion et les accords de Tamanara 7. Et dans le pacte qui n'était pas signé, les accords sous Moussa, c'était qu'il fallait recruter 300. Les rebelles avaient donné 300 pour être recrutés dans l'armée ou à la fonction publique. Le coup d'État est survenu. Une année après, le pacte national a été signé. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? de 300, on est revenu à 3000. 3000 qui ont été recrutés à la fonction publique. Donc ça donne quoi? Ça donne à certains Maliens un raccourci, un moyen de parvenir à ses fins. Par la terreur, on parvient à ses fins. Ce n'est pas bon. Et on a vu le cas, pourquoi je dis effet d'annonce, on a vu le cas de la flamme de la paix à Tombouctou. Quelle était la suite aujourd'hui? Donc les mêmes problèmes demeurent et aujourd'hui nous vivons avec des milices et ce sont des milices ethniques. Et Dieu sait qu'il y a plusieurs ethnies dans ce pays, les autres observent. Donc nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, la quadrature du cercle. Et c'est à notre État de prendre ses responsabilités en se disant que la sécurité, on ne la sous-traite pas. La sécurité d'un pays, on ne la sous-traite pas. L'armée, elle est unique. Il ne peut pas avoir une milice ou un groupement qui détient des armes en dehors de l'armée régulière.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Vous suivez le forum de la presse de ce vendredi 5 octobre 2018 avec nos confrères Mahaman Sissé de l'Indicateur du Renouveau, Yorosso de l'Inter de Bamako, Paul Nguessan de Mali Horizon, Moustapha Maïga du groupe le presse Le Segovien et de la radio Sikoro. Alors Yorosso, une réaction par rapport à l'impact quand même de ce dépôt d'armes de la MIS sur le retour de la paix dans la zone.
Oh, est-ce qu'il y aura un impact? Je ne pense pas. Tant que l'État n'est pas présent, rien ne sera comme avant. Il faut que l'État déploie l'administration, les forces de sécurité et de défense dans ces zones. Les milices ne peuvent en aucunement assurer la sécurité d'une zone. Aujourd'hui, ils ont déposé les armes, donc on va les observer. Mais l'impact, je ne vois pas concrètement aucun impact par rapport à ça. Si c'est l'a dit, d'où vient cette milice? Il y a peut-être 2 ans, un journal de la place avait annoncé cette milice de 2000 hommes créée par les Dogons. Et la réflexion que moi-même, personnellement, j'ai eu à le faire, j'ai dit que bon, ça c'est une situation qui va donner vraiment la gestion de cette milice sera très 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 difficile. 2000 milices dans cette zone, c'est pas de l'eau à boire. Et par rapport à nos petites enquêtes par-ci par-là, ceux qui ont mis en place cette milice sont connus. Aujourd'hui, il y a un officier qui est à la retraite, qui appartient à cette communauté, qui ont mis en place cette milice en vue de l'intégration des autres combattants dans le processus de paix. Et voilà que, avec la signature de cet accord, voilà, on vient de nous donner raison par rapport à cette situation. Donc, moi, je dis, il est temps que l'État s'assume en mettant fin à la création de ces milices. Parce que toutes les milices qui ont été créées, l'État est toujours derrière. L'État est toujours derrière. Nous prenons le cas de Ganako, et même si le Ganako a été créé, mais je me réjouis de cette création à l'époque, parce que Ganako est quand même parvenu à mettre fin à la rébellion dans le Nord, à mettre au pas vraiment les rebelles Touareg et Arabes qui étaient là dans les années 1990 jusqu'en 2000. Donc ça a été une bonne chose. Mais après, on a pris goût à la création de ces milices. Aujourd'hui que le contexte a changé, il faut quand même que l'État révise sa position par rapport à ça. Chaque jour ou chaque année, il y a des recrutements. Il faut qu'on parvienne quand même à redéployer l'armée sur l'ensemble du territoire. L'armée ne peut pas être cantonnée au sud ici et dans les zones où il n'y a pas de sécurité. Il faut, comme je l'ai dit, quand vous prenez Massina, Yuwaru et Tenenku, dans ces zones, la présence de l'État est inexistante. L'État n'existe pas. Voilà, quand même, faisons des efforts pour construire un Mali de demain qui va appartenir à tous les Maliens. Ce n'est pas en intégrant des communautés dans l'armée qu'on aura une armée digne de ce nom. Et ça va foirer un jour.
Alors, près de 300 civils tués, une vingtaine de morts dans les rangs de l'armée et 40 du côté des groupes armés, c'est ce que révèle le rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Alors, Moustapha Maïga, est-ce un rapport de plus?
Oui, vous êtes en train de décrire quelque chose et vous signez que c'est le secrétaire général des Nations Unies qui le développe ainsi. Finalement, les Nations Unies sont devenues juste le médecin, alors que leur objectif au Mali, c'est autre chose. Ils sont là pour diagnostiquer. C'est un diagnostic. Ce n'est pas ce que les Maliens leur demandent. Ce n'est pas ce pourquoi ils sont ici, dans ce pays. Donc, en gros, il ne faut pas se leurrer avec cette description. Il faut se convaincre d'une chose. Nous sommes face à des gens qui ne sont pas de bonne volonté, vraiment, et qui jouent sincèrement à l'hypocrisie. Parce que tout ce qu'ils ont demandé, en tout cas au gouvernement malien, le gouvernement l'a fait de bonne foi. Pendant que l'autre partie, tout le monde est au courant, eux-mêmes viennent de le décrire, ils ne trouvent pas la solution. Donc c'est de l'hypocrisie totale, ils ne sont pas de bonne volonté, ils ont leur agenda. Bon, on fait avec.
Okay. Alors pour Nguessan, quelle peut être la suite de ce rapport dans la mise en œuvre de l'accord?
Moi, je ne suis pas trop d'accord avec Moustapha quand il dit qu'ils ont leur agenda. J'ai dit non, c'est un rapport des Nations Unies qui dépeint une situation, tant au niveau des forces de défense et de sécurité maliennes qu'au niveau des groupes armés. S'il y a lieu de sanctionner, ça dépend de responsabilité. Je pense que d'abord, c'est à l'État malien de prendre sa responsabilité. Parce que tout le monde connaît sur quel saut les Nations Unies ont débarqué au Mali. Et on sait, aux différents conseils de sécurité des Nations Unies, qu'est-ce que le Mali a demandé. On a toujours demandé qu'on donne une force plus robuste à la MINUSMA pour qu'elle puisse vraiment intervenir dans les zones de conflit pour pouvoir amener la quiétude, pour qu'on puisse récupérer l'administration. Mais lorsque les autorités vont aux Nations Unies, ce n'est pas seulement de faire des discours. Et je pense qu'en dehors même du Mali, c'est une affaire de la CEDEAO, c'est une affaire de l'Union africaine. Exactement, qu'est-ce que c'est l'État africain quand ils sont là-bas? Qu'est-ce qu'ils se disent même avant d'aller au sommet? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire réellement pour que le Mali puisse revenir dans sa quiétude comme il se doit? Aujourd'hui, en dehors du Mali, on voit aussi c'est le Burkina qui a frappé notre gouverneur burkinabé. Mais je pense qu'il y a un laxisme au niveau des autorités. Donc aujourd'hui, les Nations Unies ne font seulement que regarder le spectre que donne l'interlocuteur qui est le gouvernement malien. C'est les autorités maliennes nous disent, c'est là pour dire, bon, nous sommes fatigués parce que voilà votre mission, vous n'êtes pas pu décompter, nous serons obligés de passer par une autre manière. Je pense qu'on va arriver là, parce qu'on a vu au Tchad, on a vu en RDC, on est obligé de donner une mission robuste aux Nations Unies là-bas. Pourquoi au Mali, on ne peut pas donner? Alors qu'on sait mais que l'ennemi en face de nous est l'ennemi invisible. Nous sommes dans une guerre asymétrique et on veut faire comme si on était dans une crise classique. Et les autorités maliennes, chaque fois qu'on va aux Nations Unies, avec le beau discours, on revient. Rien ne change. Donc, pour moi, je n'accuse pas la MINUSMA, je n'accuse pas les Nations Unies, j'accuse plutôt les autorités maliennes qui, eux-mêmes, prennent du plaisir à ce que la crise perdure. Je ne sais pourquoi et pour quelle raison et pour quel motif.
Okay. Mahaman, à quoi peut-on s'attendre?
Non, je crois déjà on est arrivé à un niveau où on doit carrément dire que les Nations Unies ont échoué au Mali. C'est regrettable, les Nations Unies ont échoué au Mali. Autant d'hommes, autant de matériel. Les Nations Unies, qui est censé nous ramener la paix, aujourd'hui en train de construire des aéroports, c'est peut-être ça. Sinon, moi, j'ai du mal à me retrouver désormais dans les mandats des Nations Unies. C'est-à-dire chaque jour et chaque année, on renouvelle le mandat des Nations Unies. Madame le ministre des Affaires étrangères était tellement contente de dire qu'on a renouvelé le mandat des Nations Unies. Mais on renouvelle le mandat des Nations Unies. Après, il n'y a pas de sécurité. On ne peut pas voyager d'un village à un autre, d'une ville à une autre. Oh mon Dieu, il faut qu'à un moment donné, le peuple malien aussi se réveille pour dire que, bon, en plus du fait que les Nations Unies sont en train de travailler, on ne sait même pas, c'est-à-dire, tu vois, tous les experts du monde sont là, en plus du Mali, ils travaillent, ils sont bien payés. Vous voyez, le malaise est tellement profond que le chef d'état-major de l'armée sénégalaise était parti voir ses troupes. Et les troupes ont été très claires. Ils ont besoin de renouveler leur matériel de travail. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Si le premier responsable de l'armée sénégalaise vient en République du Mali sur le terrain voir ses hommes, savoir ce qui se passe, il dit qu'il y a quelque chose, un problème. À mon humble avis, les Nations Unies, son rôle, ce n'est pas venu nous faire des rapports. Nous, on n'a pas besoin de ces rapports. En venant au Mali, les Nations Unies devraient intervenir. Ils ont un mandat. Le mandat, c'est la stabilisation du Mali. Est-ce que du début de leur présence à aujourd'hui, est-ce que le Mali est stabilisé? Au contraire, le secrétaire général et ses services doivent voir au moins pitié des Maliens. Tous les jours, des théories, c'est Emna qui nous raconte les théories. 22, 24, 20, ça ne nous intéresse pas. Comment est-ce que les gens ont été tués? Quelque part, les Nations Unies n'est pas franche avec le Mali. C'est ça.
Rapport après rapport, alors qu'on assiste quand même à un avancement, à reculons quand même du poste de commandement. On se rappelle Amadou Aya qui demandait à ce qu'on aille vers le nord, et maintenant c'est le poste de commandant qui recule maintenant vers Bamako. Alors, Yoroso, à quoi peut-on s'attendre? Est-ce que ce serait un rapport de plus?
Bon, un rapport de plus, comme mes prédécesseurs l'ont dit, les Nations Unies, au lieu à chaque 3 mois de produire un rapport, doit quand même s'attaquer aux vrais problèmes. Les problèmes pour lesquels les forces onusiennes sont là, la force Barkhane et les autres forces. Et toutes ces forces ont un mandat, c'est pour stabiliser le Mali. Depuis qu'elles sont là, ce n'est que du sang des Maliens qui coule. Donc ces rapports sont publiés peut-être pour nous effrayer, pour nous dire, bon, voilà, si nous quittons, ça sera le chaos. Parce que quand vous, un chiffre comme ça, vous dites aux gens, bon, et que les Nations Unies décident de se retirer, les gens vont dire non, bon, leur présence est dissuasive, il faut les laisser. Alors que chaque jour, c'est des Maliens qui tombent. Et il est temps quand même de réviser le contrat des Nations Unies. Il est temps. Si tel n'est pas le cas, il faut que nos autorités s'assument en disant que les Nations Unies doivent s'y retirer. Kabila l'a dit à la tribune de l'ONU. Il a été très clair que ça fait 21 ans. Ça, c'est 21 ans, selon peut-être que à partir de Kabila père. Mais l'ONU est depuis dans les années 1960, l'ONU est au Congo. Donc, il a dit 21 ans. Sur cette période, il a constaté qu'il n'y a eu aucune avancée par rapport au maintien de la paix dans son pays. Et il demande les retraits progressif des forces onusiennes. Peut-être qu'avec ça, ils vont changer de position. Mais chez nous, c'est le silence, on ne dit rien. Le gouvernement ne fait aucun effort aussi pour quand même imposer la paix. Nous sommes là, chaque jour, c'est le show médiatique. Voilà, le premier ministre est par là, le premier ministre est un défilé. Quelques jours après le défilé, il y a une dizaine de soldats maliens qui sont morts. Bon, je ne sais pas de quoi sera fait demain.
Okay.
Par rapport au poste
rapidement,
ouais, au poste opérationnel de G5, bon, le G5 est une force de plus. On doit même la supprimer.
D'accord. Merci beaucoup Mahamane Cissé de l'Indicateur du Renouveau. Merci Yoroso de l'Inter de Bamako. Merci Paul Nguessan de Mali Horizon. Merci Moustaphe Maïga, coordinateur du groupe de presse Les Ségoviens de la radio Sikoro. Donc, nous sommes donc au terme de cette émission du Forum de la presse de ce vendredi 5 octobre 2018. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Le débat a été réalisé par la rédaction de Studio Tamani et mis en onde par Mamadou Ouattara. La régie vidéo était assurée par Mamadi Keïta. Je suis Aliou Sidi B. Et à la présentation, et Mouhamadou Touré a assuré la coordination. À la prochaine.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Halo Dumandi.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.